Thierry Renoux, qui va nous parler des droits fondamentaux des personnes en France et au Japon, de la bioéthique au droit, thème et vocabulaire proche.
Tout d'abord, je voudrais remercier très chaleureusement l'Université de Tours, la Maison des sciences de l'homme du Val-de-Loire et le réseau NION Europa, tout jeune réseau, mais qui maintenant, ça y est, fonctionne et montre sa vitalité. Remercier notre ami Pierre-Yves Mondial et dire également, comme je suis très heureux de retrouver ici, tous nos collègues et amis japonais. Pour une fois, nous nous retrouvons ailleurs qu'à Tokyo ou Aix-en-Provence, nous nous retrouvons à Tours, et je trouve que ce développement d'un réseau européen est véritablement une opportunité à saisir pour nos relations bilatérales, pas simplement françaises, mais européennes, avec un pays que nous apprécions particulièrement, qui est le vôtre. Le Japon. Alors, je ne sais pas si je dois, peut-être ça sera plutôt pour plus tard, pour des dîners, je dois évoquer la déesse Uzume ou Okame, c'est-à-dire celle de la gaieté et de la bonne humeur, mais dans les libations qui pourront suivre. Mais c'est un club, en quelque sorte, de juristes francophones, franco-japonais qui s'est créé, francophone et anglophone, qui s'est créé. Et je dois dire que nous avons pour mission une seule mission. Et je voudrais rendre hommage à ces grands professeurs. Au professeur Fugase, tout d'abord, de l'université d'Hokkaido, et au professeur Higuchi, de l'université de Tokyo, qui ont été les premiers, après la Seconde Guerre mondiale, à initier ce mouvement de rapprochement entre la science juridique française et la science juridique japonaise. C'était des professeurs de droit public, de droit constitutionnel, mais pas simplement. Ils s'intéressaient également aussi au droit international. Malheureusement, le professeur Fukase vient de disparaître, de nous quitter. Mais rendons hommage au professeur Higuchi, qui a montré la voie dans laquelle nous devons poursuivre. Et je dois préciser qu'il s'agit de professeurs parfaitement francophones. Je voudrais également rappeler combien le droit japonais doit au droit français au XIXe siècle, avec l'influence du professeur Boissonnade, mais également combien nous, également, nous devons à l'apport de la science juridique japonaise, de l'histoire japonaise. Nous partageons énormément de valeurs communes. Le Japon est un pays unitaire. C'est un pays qui a une administration qui peut ressembler à la nôtre. Et c'est un pays, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, qui a une histoire longue, une longue histoire d'unité comme celle de notre pays. Et donc cela crée énormément de liens. Et je dirais qu'aussi, il y a une dimension que je vais essayer d'expliquer justement dans mon papier, dans ma communication, c'est ce que j'appelle le sentiment du vivre ensemble, le sentiment d'appartenir à une même collectivité, qui est un sentiment extrêmement fort au Japon et qui crée des véritables liens avec la façon de raisonner japonaise. Mais la façon de raisonner japonaise, sous l'effet de la mondialisation, elle évolue, et c'est ce que je vais essayer d'expliquer, elle évolue pas toujours au diapason, c'est ce qui a été indiqué il y a un instant, de la façon de penser française, avec laquelle pourtant elle partage les mêmes, je dirais, principes. Alors j'ai intitulé cette communication « Les droits fondamentaux de la personne en France et au Japon, de la bioéthique au droit » parce que mon objectif est de vous montrer comment le droit devient de plus en plus perméable à la bioéthique et comment inversement le droit peut influencer la bioéthique. Mais je crois que la perception de la bioéthique et du droit n'est plus exactement la même au Japon et en France. Alors tout d'abord, je vais essayer quand même de revenir sur des concepts qui sont souvent confus, confondus. L'éthique, la morale, le droit. L'éthique, ce n'est pas la morale. La morale édicte des règles, L'éthique a pour vocation de s'interroger sur ces règles. La morale, comme le droit d'ailleurs, indique ce qui doit être. On l'a entendu il y a un instant, le Conseil d'État rappelle que le droit indique ce qui doit être, alors que l'éthique tente de nous enseigner par réflexion spéculative sur ce qui devrait être. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que, sur le plan de l'origine, éthique vient de ethos, racine grecque du mot éthique, donc, qui signifie les mœurs, alors que la morale vient du latin mores, qui signifie bien sûr les mœurs, mais surtout les coutumes, les usages. Et ces notions, coutumes, usages, sont des notions très connues des juristes, ce qui montre le caractère social, en quelque sorte, de la science juridique. L'éthique n'est pas davantage le droit, car loin de décrire, de fixer, elle interroge. Et se livre à une réflexion, à des choix sociétaux qui sont opérés par le droit, et en particulier, j'y viendrai dans un instant, par son juge. Ce qui explique que l'éthique s'applique dès l'instant où un décideur public ou privé, c'est justement le problème à mon avis du Japon, se trouve confronté à un conflit de valeurs. C'est là qu'il est nécessaire de s'interroger sur ce qui devrait être, et les rapports entre le droit et la science juridique avaient été évoqués déjà par, plutôt l'éthique et la science juridique, avaient déjà été abordés par le philosophe allemand Jürgen Habermas, qui déjà nous invitait à une réflexion sur cette relation entre l'éthique et le droit, débat qu'il désigne comme inhérent à l'essence de l'éthique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ignorer le droit. Et cette approche donc va nous conduire à nous demander quelles sont les influences de l'éthique sur la construction du droit, si au Japon comme en France, il n'y a pas une évolution, pour ne pas dire une révolution, dans la construction du droit, et quelles sont les influences du droit sur la perception de l'éthique, notamment dans l'exercice d'une profession. Et là, on parle de déontologie. C'est-à-dire, je parlerai notamment de la déontologie médicale. Et l'argument de la bioéthique, cette fois, je passe de l'éthique à la bioéthique, de la bioéthique est à ce sujet éclairant, en France comme au Japon, la bioéthique désignant ici cette partie particulière de l'éthique qui est apparue en tant que champ ou en tant que discipline nouvelle dans les années 60 et qui a pour objet une réflexion sur le développement de la biomédecine et des technosciences. Et dans les deux pays, le droit se teinte de bioéthique, mais je dirais l'absorption, en quelque sorte, n'est pas nécessairement identique, n'est pas nécessairement la même. Et à l'appui de ma démonstration, je prendrai deux exemples. Premier exemple, la prise en compte de la bioéthique dans l'élaboration des normes médicales, des normes du droit médical pour nous. Donc la prise en considération de la bioéthique dans l'élaboration des normes du droit médical. Et le deuxième exemple que je donnerai, le second exemple, c'est la prise en compte de la bioéthique dans la perception de la vie par le droit médical. Alors commençons par les normes. J'ai pris donc l'exemple de la vie comme droit fondamental, parce que j'aurais pu en prendre d'autres. Mais commençons par les normes. Les normes du droit médical en France et au Japon. En France, il semble, a priori, que ce soit le règne de la loi, alors qu'il semble, mais je parle sous votre contrôle, d'après les études que j'ai pu mener, et je dois dire que j'ai été aidé en ce sens par une de mes doctorantes de l'université de Nagoya. Ça devrait pousser Ken à écouter davantage. Quand je parle de l'université de Nagoya, et qui s'appelle Haruna Kawashima, une jeune doctorante qui a fait son master chez nous et qui poursuit son étude de droit sur ce sujet de la bioéthique et des droits fondamentaux. Donc elle m'a aidé, je dois tout à fait le reconnaître et je dirais la remercier publiquement dans le propos que je vais tenir, dans les recherches en tout cas relativement au Japon. Alors en France, on est plutôt du côté du règne de la loi. C'est-à-dire qu'en France, dans la relation entre bioéthique et le droit, c'est la loi qui gouverne. On l'a vu, ce sont des lois de bioéthique. Nous avons des lois de bioéthique, 1994, 2011, nous les révisons régulièrement. Et donc, c'est la loi qui détermine quel doit être le comportement bioéthique. Et par voie de conséquence, la loi est le seul vecteur des principes d'éthique médicale. Notamment, j'ai un bon exemple, dans la recherche sur les embryons humains, on voit en 2013 le Conseil constitutionnel qui est saisi d'une loi qui concerne la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Et cette loi est critiquée comme portant atteinte au principe de sauvegarde de la dignité humaine. Eh bien, le Conseil constitutionnel répond que cette loi, bien sûr, elle impose la mise en œuvre de protocoles respectant les principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches. Et le Conseil constitutionnel entend par là, non pas viser les avis du Conseil consultatif national d'éthique que nous avons, mais entend viser tout simplement le Code de la santé publique et l'article 16 du Code civil qui vient d'être évoqué, l'article 16 et suivant, sur le respect de la dignité de la personne humaine. Donc autrement dit, la source d'inspiration doit être la loi, le droit, pour la recherche sur les embryons humains. Rien sur un avis, notamment je pense à l'avis 112 sur le CCNE, les avis du Conseil national d'éthique, et rien sur les comités d'éthique européens, encore moins. Du côté des soins médicaux, même chose. En 2014, le Conseil d'État se penche sur une affaire que vous connaissez bien, c'est l'affaire Vincent Lambert. Au début de l'année 2014, un médecin a décidé d'arrêter l'alimentation et l'hydratation artificielle de Vincent Lambert, qui, vous le savez, est tétraplégique, en étape aussi relationnelle, ne peut plus communiquer. Le Conseil d'État, avant de se décider, se renseigne auprès d'experts, mais il va rendre sa décision suspensive, et vous savez très bien que la Cour européenne des droits de l'homme, qui va être saisie, va nous demander ce que nous avons respecté, parce que nous n'étions pas du tout obligés, de ne pas suspendre la décision antérieure du tribunal de Chalon-en-Champagne, et de faire en sorte donc d'attendre avant de décider de débrancher M. Vincent Lambert, donc d'attendre la réponse de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais dans un premier temps, le Conseil d'État va estimer que la loi prescrit au médecin, lorsqu'il prend une décision d'arrêt de traitement, de sauvegarder la dignité du patient et de lui dispenser des soins palliatifs. Nous sommes avant la loi sur la fin de vie. Nous sommes en 24 juin 2014. Le Conseil d'État prend quand même position clairement parce que la distinction entre les soins et le traitement, ce n'est pas une distinction évidente. Est-ce que hydrater, donner de l'eau, alimenter, donner des aliments, ce sont des soins ou est-ce que c'est un traitement? On peut arrêter le traitement, mais on ne peut pas arrêter les soins. Et le Conseil d'État entre là véritablement dans le champ du médical. Et on s'aperçoit qu'il ne fait pas référence à des principes éthiques, de bioéthique. Et la Cour européenne des droits de l'homme va, en 2015, donner raison au Conseil d'État, se prononcer sur ce point, ce qui montre bien qu'en Europe, sur ces questions de passage de la vie à la mort, eh bien, on estime que c'est toujours la loi, un ordre public, comme il a été dit, un ordre objectif qui doit régner. Au contraire, au Japon, du côté des normes, on s'aperçoit qu'on est beaucoup plus dans un droit casuistique, au cas par cas. Au Japon, bien sûr, il existe des lois dans le domaine de la bioéthique, même si on ne parle pas de biodroit, il existe des lois sur la recherche biomédicale, sur les organismes génétiquement modifiés, sur la transplantation d'organes. Il existe même, vous l'avez entendu, un projet de loi sur la PMA, pour création médicalement assistée, mais il est toujours à l'état de projet. Et puis, il faut voir le contenu aussi. Il n'est pas aussi précis que le contenu de nos lois. Ce qui fait qu'en ce domaine, en matière médicale, au Japon, eh bien, c'est le règne non pas de la loi, mais c'est le règne des directives et de la jurisprudence. Et quand je parle de directives, je parle de directives publiques, d'un côté, c'est-à-dire des directives du Comité national d'éthique, ou, parce qu'il n'y a pas un seul Comité national d'éthique, ou des comités d'éthique, comme ça a été rappelé tout à l'heure par Mme Tateshi, des comités d'éthique de chaque ministère. Il existe même un comité d'éthique pour le ministère de l'Éducation nationale, un comité d'éthique pour le ministère de l'Agriculture, pour savoir si le riz qui est exporté en Chine est tout à fait convenable ou pas, pour les OGM, etc. Donc il existe un comité d'éthique par ministère. Et récemment a été créé un panel auprès du Premier ministre, a été créé un panel d'experts issus du Conseil national d'éthique, mais même ce panel d'experts ne dispose d'aucun pouvoir contraignant et d'aucun pouvoir normatif. Il émet des directives incitatives, indicatives. Et du coup, comme il y a des directives indicatives, eh bien, c'est le juge qui s'infiltre en quelque sorte dans le vide législatif qui a été évoqué par la précédente oratrice. Et ces guidelines, en quelque sorte, comme on les appelle en anglais, du ministère de la Santé publique, sont complétées par des directives privées. Et il y a toute une série de directives privées qui ont la même valeur que les directives publiques. Pour nous, ça paraît complètement surréaliste. Il y a trois grandes associations médicales, et bien ces trois grandes associations médicales ont édicté chacune de leur côté des directives privées sur les soins palliatifs, par exemple. Et mon étudiante s'est livrée une petite étude de statistiques, puisqu'elle progresse dans son travail. Elle m'indique que 29% des médecins confrontés à des fins de vie font référence à ces directives, publiques ou privées, mais que 31% des médecins, 42% des infirmiers et 45% des membres du personnel hospitalier en ignorent même l'existence. Je ne parle pas de directives publiques, je parle de directives publiques et privées. Donc, ce qui fait qu'on a des solutions très diversifiées, notamment, comme il a été dit, en matière pénale, lorsqu'il y a une poursuite pénale, pour homicide volontaire, par exemple. Même dans un cadre non médical, c'est-à-dire en dehors du milieu hospitalier. Et les critères de l'irresponsabilité pénale vont donc être fixés par le juge, qui va dire, un, premier critère, la personne était bien atteinte d'une maladie incurable. Deux, deuxième critère, l'intervention a eu pour but de soulager la souffrance du malade. Troisième critère, le malade a exprimé plusieurs fois une demande sincère, a exprimé plusieurs fois la volonté de ne pas souffrir et de décéder. Et ça justifie l'arrêt de soins, mais l'arrêt de soins, pas simplement les soins palliatifs, assortis de produits létaux qui vont provoquer un arrêt cardiaque. Et là, la Cour de Nagoya, en 1962, dit donc pas de poursuite pénale. Et en plus, on était en dehors de l'hôpital, là, carrément. Alors ensuite, il y a toute une jurisprudence pour le domaine hospitalier où il y a un peu plus de critères. Il y a 6 critères, mais c'est à peu près les mêmes. Et récemment, dans différentes affaires, celle de la Cour de district de Yokohama, 1995, dite Tokai University Hospital Euthanasia Case, où là, on n'a pas établi qu'il y avait une preuve de la demande du patient, mais de la famille. C'est la famille qui voulait qu'on mette fin à ses jours, en quelque sorte. De même, dans une affaire de 2005, dite Kawasaki Kyodo Hospital Case, et également en 2007, de la haute cour de Tokyo, la cour d'appel, il s'agit de solutions très diversifiées sur l'irresponsabilité pénale. On est au cas par cas. Et là, je cite un auteur japonais que j'ai eu l'occasion de lire, le professeur Ida Ryushi, qui est professeur à l'université de Waseda, qui indique que, bien sûr, du coup, on a du cas par cas, une grande casuistique. On a une interprétation de l'homicide, article 199 du code pénal japonais, ou de l'homicide avec consentement, article 202, c'est-à-dire du suicide assisté, finalement, par le juge qui va au cas par cas estimer si il y a ou non pénalisation, si on doit poursuivre ou pas. Donc la loi, vous le voyez, est quasiment inexistante dans ce domaine. Ou en tout cas, elle relève du pouvoir du juge. Deuxième exemple que je vais donner, donc vous le voyez, un grand pouvoir jurisprudentiel. Le deuxième exemple que je voudrais donner, c'est un droit fondamental, la vie. Le droit fondamental, comment est perçue la vie par le droit au Japon et en France. Et là aussi, je vais me borner à des grandes lignes directrices. Je ne vais pas, en 15 minutes, je ne vais pas donner l'essentiel du contenu, je dirais, détaillé. Alors, je dirais qu'il semble, parce que les affaires évoluent, la jurisprudence évolue, mais il semble, au vu des affaires que nous trouvons, des cas que nous trouvons, et en dehors, et en l'absence de textes législatifs, il semble que parfois au Japon, il y a des exceptions, je les donnerai, on a plutôt de la protection de la vie, le sentiment d'un droit subjectif, et donc une grande prise, je dirais, de conscience de l'autonomie personnelle. La personne décide de la protection de sa vie. Et puis, de notre côté, en France, on a un caractère objectif de la vie, très net, qui est proche de celui de la Cour européenne des droits de l'homme, où on ne peut pas décider de sa vie comme ça, sans tenir compte de l'opinion des autres. Et ça peut être étrange que dans un pays comme le Japon, où on tient compte... Et là, je tombe sous l'autre aspect du bien-être public, article 13, où on tient compte de la vie collective. Ça peut sembler étrange qu'il y ait ce processus d'autonomie de la volonté en matière médicale qui joue, j'interpelle mes collègues japonais, je vois qu'ils font une drôle de tête, mais qui joue un tel rôle, en quelque sorte. Alors, commençons par la protection de la vie, droit subjectif. Je sais, je pense à l'article 13, le droit au bonheur, avec pour limite, alors venant du système américain, on est bien d'accord, mais venant à l'origine de la France. Hein. Si vous lisez la Déclaration française des droits de l'homme, le droit au bonheur se trouve inscrit dans le préambule de la Déclaration des droits de l'homme française. Et la Déclaration de l'État de Virginie, qui était rédigée à peu près au même moment, et ensuite la Déclaration d'indépendance, ont repris ce droit au bonheur qui était, disons, dans l'air du temps, je dirais, de l'esprit de Rousseau notamment. Donc, du droit au bonheur, on déduit dans la jurisprudence japonaise, souvent, mais là je parle sous votre contrôle, hein, j'avance des idées peut-être un peu prudemment, on déduit souvent le fait que c'est la personne qui va décider de son bonheur. Et je donne un exemple caractéristique qui est bien connu de tous les auteurs de droit public japonais, qui est l'arrêt de la Cour suprême de 2002, du 29 février 2002, dans l'affaire des témoins de Jéhovah, de la transfusion de sang des témoins de Jéhovah. Voici ce que dit la Cour suprême du Japon. Lorsque le patient décide de refuser des soins nécessitant une transfusion de sang en raison de convictions religieuses, un tel droit de décider volontairement la transfusion doit être respecté comme appartenant, étant l'essence même du droit de sa personnalité. C'est un arrêt qui est très connu, cet arrêt de 2002 des témoins de Jéhovah. Ce qui est intéressant, c'est de noter que la même année, en 2002, le Conseil d'État, dans une même affaire des témoins de Jéhovah, donc même année, même cas, même problème, transfusion sanguine, le Conseil d'État, dans un arrêt du 16 août 2002, Madame F., dont vous avez les références dans mon rapport, c'est une ordonnance, en fait, de référé, estime que, quand bien même la personne ferait état de convictions religieuses, la personne qui est en train de mourir, eh bien, on doit effectuer une transfusion sanguine dans le but de la sauver. Parce qu'elle ne dispose pas de sa vie comme cela, même pour des raisons religieuses, et que les médecins n'ont commis aucune faute de nature à entraîner la responsabilité du service hospitalier. Donc, vous le voyez, on a deux logiques différentes, une vision universaliste de la vie en France, de la protection de la vie en France, et qui rappelle celle de la Cour européenne des droits de l'homme, et d'un autre côté, une vision plus casuistique au Japon, la vie heureuse. La personne a décidé de vivre de cette manière et de mettre un terme à sa vie si elle le souhaite de cette manière. Alors j'en viens justement à l'aspect objectif, la France. Si on s'interroge sur la question de la vie, on l'a entendu il y a un instant, pour la question du début de la vie, le Japon et la France partagent exactement les mêmes principes. Vous l'avez entendu. Mater, semper, certa, est. La mère est celle qui accouche. Et c'est pour ça que cette proposition, ce projet plutôt du Parti libéral-démocrate est extrêmement inquiétant, puisqu'il s'inspire du droit américain, donc il renie ses sources européennes, puisqu'il est en train de dire la mère d'intention, celle qui n'accouche pas, va devenir la mère dans la proposition sur la GPA. Comme aux États-Unis, vous avez recours à une mère porteuse, la mère c'est celle qui a passé commande. Chez nous, la mère, c'est celle qui accouche. Et j'ai expliqué lors de la journée des droits de la femme, d'ailleurs, j'ai expliqué ceci, d'ailleurs, j'en ai parlé aussi au Japon, donc vous avez déjà entendu peut-être ça, enfin en tout cas ma voisine. Je trouve d'ailleurs que ça crée une énorme disparité, une rupture d'égalité entre l'homme et la femme, parce que la femme, pour être mère, il faut qu'elle ait accouché. Elle ne peut pas être mère si elle n'a pas accouché. Et ce qui a été dit tout à l'heure dans l'affaire Ménesson, attention, pour que nous reconnaissions l'état civil américain, encore faut-il que dans l'état civil américain, il soit bien indiqué que la mère porteuse n'est pas la mère. C'est-à-dire que ça dépend des états. C'est peut-être dans un état qui permet à la mère française d'adopter, en quelque sorte. Il faut que la mère française adopte l'enfant. Mais il ne faut pas qu'on soit dans un système, dans un État dans lequel la mère d'intention serait la mère. Il faut qu'on soit dans un système dans lequel la mère puisse adopter l'enfant qui a été porté aux États-Unis. Alors que le père, lui, il va aux États-Unis, il dit « Voilà, j'ai rencontré une Américaine, c'est moi, je vous promets que c'est moi le père. » On ne vérifie rien, il n'y a pas de paternité biologique. Il dit, c'est moi le père, il a peut-être donné, pardonnez-moi, aucun matériel, rien du tout, et il est le père. Et les associations féministes, ça, n'ont même pas soulevé ce problème. Je trouve ça surréaliste. Donc d'un côté, la mère, c'est forcément la mère biologique, le père, c'est le père sur sa bonne mine, sa bonne déclaration. Fantastique, moi je dis, là, le droit... Bon, j'espère qu'il y aura une QPC là-dessus. J'espère. Bon, en tout cas, le début de la vie, tout ça pour vous dire qu'au début de la vie, il n'y a pas de problème. France et Japon, on partage exactement les mêmes règles juridiques. Par exemple, la femme qui est enceinte, un accident de voiture, il n'y a pas domicile involontaire, ni au Japon, ni en France, je ne crois pas, quand l'enfant n'est pas né. Donc il faut que l'enfant soit né pour qu'il existe. En quelque sorte, à la vie juridique, on partage les mêmes, pour le commencement de la vie, on partage les mêmes règles. Jusqu'à maintenant, parce que si on voit le projet sur la PMA aboutir, on risque de s'en éloigner. Pour la fin de la vie, les définitions, là, sont quand même très différentes, parce que la fin de la vie au Japon, c'est très largement, je vous l'ai dit, des directives, et c'est très souvent également des directives qui sont suivies en fonction des demandes de la famille. Ça, c'est très important, ou des proches. Autrement dit, on va interrompre ou pas la vie en fonction uniquement de la vie de la famille, ce qui fait que la religion va jouer beaucoup plus. La philosophie, même la religion. Alors qu'en France, nous avons une définition de la mort. Il n'y a pas de définition de la mort au Japon. Et au Japon, les Japonais sont très choqués quand ils voient que nous pouvons, c'est possible chez nous, c'est même autorisé par la loi, nous pouvons prélever un organe sur quelqu'un dont le cœur bat. Il suffit qu'il soit en état de mort encéphalographique et on peut prélever des organes alors que son cœur bat. Au Japon, si vous dites que le cœur bat, etc., on va demander à la famille. Non, la famille va refuser, va dire il est vivant, c'est nous qui décidons s'il est vivant ou pas. Donc il y a une conception beaucoup plus subjective de la vie au Japon, de la fin de vie en tout cas, et du passage à la mort, c'est lié à des raisons religieuses, vous comprenez. Est-ce que, pour conclure, pour autant, les deux pays sont si éloignés que cela ? Alors je me mettrai cette fois-ci uniquement du côté français. J'en suis pas sûr, parce que regardez les dernières évolutions, que je ne critique pas d'ailleurs, mais je dis ces évolutions du droit. La loi du 2 février 2016 sur les nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Désormais, cette loi institue un droit à la sédation profonde, c'est-à-dire donc le médecin administre des analgésiques, des tranquillisants extrêmement puissants. À la sédation profonde, attention, à la demande du patient. Il faut que le patient le demande. Donc il y a déjà première réserve. Mais d'un autre côté, s'il le demande, il l'a. Or, comme me disait un ami qui travaille aux soins palliatifs, dans les soins palliatifs, il arrive un moment où la sédation profonde et l'administration de la mort, on ne sait plus trop où est la marge. Donc, vous voyez déjà un premier rapprochement. Et un deuxième rapprochement, c'est que nous prenons en considération, alors ce qui n'existe pas à ma connaissance au Japon, enfin pour l'instant je n'ai pas encore poussé des recherches suffisamment loin, ça sera l'objet de notre colloque, les directives anticipées. Les directives anticipées, c'est-à-dire qu'en France, maintenant, nous admettons le fait de dire, quand vous êtes vivant, voilà, je consigne ceci, j'indique à l'hôpital que si je tombe dans un coma végétatif, je ne tiens pas à être maintenu en vie au-delà de ce qui est raisonnable, et c'est les fameuses directives anticipées. Donc finalement, les deux pays se rapprochent, puisque nous, soi-disant pays de l'ordre public, comme on l'a entendu tout à l'heure, pays, je dirais, de la loi, nous nous apercevons que de plus en plus, c'est la volonté, l'autonomie de la personne qui aussi revient sur le devant de la scène. Ça, c'est un phénomène lié à la mondialisation du droit. Droit à l'autonomie, droit au bonheur, on ne l'a pas encore en France, j'espère que nous allons l'importer, droit de mourir. On mesure qu'en France comme au Japon, eh bien, le poids des mots devient essentiel en quelque sorte, et sous l'effet de cette globalisation. Et puisque je commence à porter une barbe, je peux citer, je crois, Victor Hugo. Et donc, je donnerai à Victor Hugo le dernier mot. Victor Hugo disait ceci, « Les mots, écrivait-il, les mots sont les passants mystérieux de l'âme. » Les mots sont les passants mystérieux de l'âme. Je trouve que c'est une formule magnifique des contemplations. Je vous remercie. Domo arigato gozaimashita.
Merci Thierry pour cette présentation toujours aussi enthousiaste. Juste peut-être un peu trop enthousiaste, les directives anticipées, c'est pas simplement quand tu es vivant, c'est quand tu es vivant et conscient.
Oui, en plus.
Parce que...
Oui, tu as raison, j'ai oublié, conscient, ouais. Oui, bien sûr. Mais tu ne peux pas en donner par définition si tu n'es pas conscient.
Oui, mais le problème justement de savoir si tu es vivant ou pas est le problème que posent les directives
non,
anticipées.
Non, conscient, bien sûr.